Bon, bonsoir. J'ai déjà prévenu Arthur Gerber, le lauréat. Désolé pour cette présentation masquée, quasiment. Donc, si je m'approche d'un feu rouge, on va me faire traverser les passages cloutés. Des problèmes de santé, mais justement, je suis accompagné d'un médecin, mais qui n'est pas ophtalmo. Donc, Arthur Gerber, nous sommes absolument ravis de vous accueillir à Bordeaux, donc à l'occasion de la 7e édition du prix Jacques Ellul. Votre livre est extrêmement riche, il est passionnant, il est vraiment très dense. Et puis, c'est ce qui vous vaut d'ailleurs cette attribution. Il est élulien du début à la fin, il est élulien dans son objet, il est élulien dans sa méthode, et il est même élulien dans son titre et dans son sous-titre, hein, puisque vous parlez de la fabrique du progrès, et vous parlez du scientisme, vous parlez du système technicien, c'est le maître livre, enfin un des maîtres livres de Jacques Ellul. Et puis vous parlez de l'écologie et du capitalisme vert. Alors il a ce livre qui est sous vos yeux, il a une particularité supplémentaire pour nous. Je parle du prix Jacques Ellul. C'est qu'il a été édité à Lyon. Donc c'est le même éditeur qu'Ellul, donc par l'atelier de création libertaire. Et c'est-à-dire justement l'éditeur que Jacques Ellul avait choisi pour publier son livre Anarchie et christianisme. Et finalement, c'est indirectement ce qui vous vaut d'être ici. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aurai l'occasion d'en parler plus longuement dans quelques mois, j'espère, puisque c'est en voulant retracer la genèse, hein, ou la généalogie, si on peut dire, ou la genèse tout court, quoi, pour l'introduction, pour la présentation du Ellul dans la collection bouquin. J'étais parti sur des fausses pistes et je me suis demandé effectivement pourquoi Lyon, alors que Ellul publié chez Kahneman Lévy, publié au Seuil à l'époque, chez Hachette, hein, puisqu'à la même année il va publier le Bluff technologique. Et puis j'ai remonté le fil et en rencontrant votre éditeur qui a ouvert les archives, il a attiré mon attention et j'ai attiré l'attention des membres du jury. Votre prix, votre livre est rentré dans la sélection du prix. Et puis le jury s'est réuni au mois de juin et vous avez retenu l'attention du jury et je m'en réjouis. Écoutez, le jury connaît votre livre, le public pas encore, mais en revanche, on vous connaît pas parce qu'on a simplement là, et on va essayer, on a un peu moins d'une heure, mais après il y aura des questions de la salle, mais l'éditeur se contente en quatrième de couverture d'indiquer jeune médecin, on voit qu'il ne ment pas, jeune médecin à Lyon, marqué par la culture libertaire. Donc j'espère que on pourra éclairer ce point. Vous nous direz, à travers les questions que je vous poserai, comment est-ce qu'on peut être médecin et libertaire, hein, je ne dis pas anarchiste, mais vous nous expliquerez, hein, et comment aussi on peut être médecin et critiquer le progrès technique. Et justement, puisqu'il est question de médecine, dans l'avant-propos de votre ouvrage, vous êtes extrêmement critique à l'égard des études de médecine. Vous êtes très sévère. Vous dites qu'on dispense une idéologie positiviste, qu'on y diffuse une culture toxique du rationalisme, et que finalement, ces études fabrique des médecins au regard étriqué. Alors, je suis pas en mesure, encore que très indirectement avec mon généraliste qui ne répugne pas à me donner des cours d'histoire des idées politiques, voire précisément sur l'anarchisme, mais c'est vrai qu'on peut considérer, avec, dans ce qu'on appelle maintenant nos parcours de santé, hein, on rencontre peu la figure du médecin humaniste, lettré, qu'on pouvait, qu'on retrouve encore quand même en littérature, dans les fictions, dans la vraie vie, c'est plus tard. Mais est-ce que quand même, c'est pas un peu injuste le portrait de vos études de médecine ?
C'est peut-être un peu sévère. Je pense quand même que, au-delà de la médecine, en fait, les filières scientifiques, dès le lycée, dès les filières scientifiques au bac, puis après à l'université ou dans les écoles d'ingénieurs, dans les facultés de médecine, globalement, les filières scientifiques sont détachées de culture épistémologique, de culture sur les études sociales, sur les sciences, et on nous serine vraiment d'une connaissance pure produite par le champ en question. Les ingénieurs apprennent les sciences de l'ingénieur, le médecin apprend la médecine, et on est très peu formé à une culture générale justement sur l'histoire, la philosophie, la sociologie des sciences, ce qui est dommage en fait. Hein. Et il y a de fait une séparation, un clivage entre les filières qu'on pourrait dire littéraires et les filières scientifiques qui est dommageable, qui a des racines historiques et qui font que cette séparation du cursus est devenue presque un inconscient scolaire où les scientifiques sont vraiment détachés d'une réflexion critique sur leur milieu, sur leur travail, ce qui est très problématique. D'ailleurs, c'est ce qui a motivé l'écriture de ce livre. C'est que après avoir découvert tout ce travail, j'ai pu me sentir un petit peu déçu, justement, dans cette prétention de rationalisme un petit peu naïf qu'on peut avoir en tant que scientifique. Et en tout cas, ça m'a beaucoup intéressé, toute cette littérature que j'ai découverte, qui m'a questionné fondamentalement et élu en premier lieu. Ce qui m'a motivé pour ensuite essayer de transmettre toutes ces connaissances que j'ai pu acquérir sur ces questions. Et cette réflexion critique portée à la fois sur mon domaine de compétences, mais plus largement sur les filières scientifiques au sens large et sur la science. Parce que on nous apprend une forme d'idéalisation de la science avec un grand S, hein, qui serait, même j'ai envie de dire, on est formaté dans une forme d'idéologie scientiste, hein, l'idée que la science est là pour résoudre tous nos problèmes et toute puissante et qu'une institution qui est neutre, capable de produire des connaissances sans être influencée par les autres sphères de la société. Et évidemment, c'est une énorme ânerie qui est bien connue pourtant par tous les tenants des sciences sociales qui étudient le phénomène scientifique et qui nous ont complètement changé l'image qu'on peut avoir de la science. On a historiquement un discours sur les sciences qui était influencé par l'épistémologie, la philosophie des sciences, qui cherchait de façon purement interne et logique les critères de scienticité, de bonne pratique de la science. Et c'était un discours qui était normatif, qui essayait de nous dire qu'est-ce que la bonne science. Et face à cette approche normative portée par l'épistémologie, il y a eu les études sociales sur les sciences qui ont... des historiens, des sociologues, des anthropologues des sciences qui nous ont changé de discours et qui ont apporté une analyse descriptive des sciences pour nous présenter non pas la science telle qu'elle doit être, mais telle qu'elle se produit concrètement. Donc un discours qui n'est pas normatif, mais descriptif des sciences. Mmh. Et ça, c'est fondamental et ça a amené à une reconfiguration de la vision des sciences et pour vraiment comprendre cette complexité dans l'activité scientifique. Et donc, de fait, l'absence de neutralité des productions scientifiques, quelque chose dont on n'est pas du tout éduqué, encore une fois, dans les milieux scientifiques, et ce qui est dommageable pour notre travail, parce que du coup, on manque aussi de recul critique sur ce qu'on fait.
Oui, alors, justement, le recul critique, est-ce que précisément, et même la critique du regard étriqué, je voulais vous poser cette question, est-ce que vous avez pris la forme, au lieu de prendre la forme de l'essai, hein, généralement, c'est le cas. Vous avez pris la forme, c'est aussi une singularité de votre ouvrage, l'ouvrage de synthèse, justement. Est-ce que peut-être on peut le lire, dites-moi si je me trompe, comme ce que vous auriez aimé lire et entendre durant votre cursus,
vous avez complètement...
qui vous a manqué.
Ouais, ouais. Vous avez complètement raison, c'est ça. Ouais. Mm-hmm. Alors, c'est vrai qu'il est aussi entre un ton de synthèse qui veut essayer de transmettre ce que j'ai pu apprendre par moi-même. Encore une fois, Ellul a été très important. Je pense qu'on en
c'est peut-être rediscutera. Mais... Alors, on va peut-être le... Oui, bien sûr que c'est prévu, mais précisément. Alors, comment est-ce que vous êtes tombé sur Ellul ? Parce que, il n'y a rien d'évident.
Tomber, c'est le mot. Il y a une part de hasard dans ma rencontre avec Ellul. En fait, c'est une autre histoire, et on ne va pas développer ça, mais j'étais à l'époque en train d'écrire ma lettre d'apostasie à l'archevêque de Strasbourg, parce que j'ai été baptisé jeune, je suis athée, et j'ai voulu, j'avais vraiment rien d'autre à faire à l'époque, je me suis amusé à écrire ma lettre d'apostasie, à être rayé des registres de baptême, et j'ai voulu, du coup je m'intéressais, quand même, c'est pas du tout par anticléricalisme, mais c'est par... curiosité, je me suis intéressé, j'ai lu la Bible, des évangiles apocryphes, le Coran, des études aussi théologiques, bref, ça m'avait un petit peu intéressé, j'ai voulu écrire un argumentaire, et comme vous le dites, j'ai un bagage plutôt proudhonien, libertaire, qui m'a amené donc à une librairie à Lyon qui s'appelle La Griffe, que vous connaissez bien également.
Ou bien, c'est beaucoup dire.
On s'y est croisé.
Un peu
lors d'une conférence.
À peine croisé. Vous étiez
rapidement
dans le public,
nous étions
séparés, donc on ne se connaît pas.
C'est vrai, on s'est vu qu'une fois.
Voilà.
Mais en tout cas, donc dans cette librairie, je suis tombé par hasard justement sur le livre « Anarchie et christianisme » de Jacques Ellul, ce qui m'a interloqué.
Même ce livre, il le diffuse.
Ouais.
Ah bon.
Ouais, dans un petit rayon religion qu'ils ont dans la librairie. Et donc, je suis tombé sur Steve, le livre m'a interloqué, et je l'ai lu. Je l'ai trouvé passionnant, avec un regard, pour ceux qui l'ont lu, globalement, la thèse ellulienne veut en fait montrer que la philosophie chrétienne, la théologie chrétienne, a une dimension d'émancipation politique, sociale, face derrière à l'institutionnalisation du christianisme dans l'Église telle qu'elle s'est construite historiquement avec Constantin, avec l'Empire romain, etc. Bref, j'ai trouvé ça passionnant et je me suis dit, tiens, ce penseur est original, donc j'ai un peu creusé cette histoire et le hasard encore fait que la semaine d'après avoir lu ce livre, je suis invité chez une collègue médecin technocritique, membre de l'association Écran Total. Donc il n'y en a pas beaucoup des médecins technocritiques, encore une fois, mais il s'avère que là, il y en avait une sous la main.
Vous m'enlevez d'autres questions.
et du coup, elle me parle évidemment d'Ellul sur l'angle de la technique, et je lui dis, c'est rigolo, je viens de lire un livre d'Ellul. Elle me dit, qu'est-ce que tu as lu ? Je lui dis, Anarchie et christianisme. Elle me dit, mais tu n'as pas lu le bon livre, là. C'est le système technicien qu'il faut lire. Donc je suis retourné à ma librairie, j'ai acheté le système technicien, et effectivement, c'est le livre que je devais lire. Qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, je suis entré dans la pensée d'Ellul en attaquant un peu dans le vif du sujet, quoi, en lisant un peu un de ses ouvrages centrales sur la technique, et même en général, qui peut sembler un petit peu ardu, qui est très dense aussi, mais que j'ai trouvé passionnant et qui m'a posé beaucoup de questions, qui m'a fait découvrir, pour le coup, un continent complet. Cette réflexion sur la technique, c'est quelque chose, encore une fois, par... cette absence de culture générale dans les études scientifiques, c'est quelque chose qui m'était complètement inconnu et que j'ai découvert à travers Ellul, cette réflexion sur la technique. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a énormément questionné. Et je dirais que c'est lui qui m'a, derrière, donné cette soif de comprendre en fait les déterminants de l'activité technoscientifique. Et qui m'a déclenché une boulimie de lecture, je dirais, pour combler ce manque que je ressentais. Et après avoir lu tout ça, justement, comme vous le disiez, je me suis retrouvé avec beaucoup de matériel, parce que je prenais beaucoup de notes sur ces réflexions-là, justement, et que j'ai voulu synthétiser à la base pour moi, rapidement pour mes proches, parce que je me suis dit que proches médecins, que je voulais sensibiliser sur ces questions. Et donc j'ai fait circuler le manuscrit et en gros, les médecins à qui je l'ai fait lire, des ingénieurs également m'ont dit bah c'est que voilà, c'était fort. Alors je prétends pas avoir d'originalité là-dedans, encore une fois c'est un ouvrage, je pense, de synthèse, je mets mon grain de sel, mais c'est plus une transmission que j'ai voulu faire, et donc ces gens à qui je l'ai fait lire m'ont dit mais tu tiens quand même quelque chose, ça serait bien que tu le proposes à un
éditeur. Ils ont eu raison, hein,
voilà. Si je peux me permettre. Du coup je l'ai envoyé à des maisons d'édition et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée.
D'accord, ben, c'est bien terminé. Donc en effet vous avez ces deux dimensions et même une troisième, mais donc vous avez cette culture libertaire et puis vous reconnaissez donc dans le courant technocritique. Dans les deux cas, le moins qu'on puisse en dire, et qui plus est dans votre milieu professionnel, ce ne sont pas des courants majoritaires quand même. Et alors, même si je me fais l'avocat du diable, mais vous ne trouvez pas quand même qu'il y a une contradiction à être médecin, puisque ben, vous l'êtes, hein, et puis être, pas contre le progrès technique, mais enfin, le remettre en cause.
Alors, encore une fois, je pense que évidemment, se dire technocritique, c'est pas un rejet complet de la technique, ce qui n'aurait aucun sens. La technique, c'est le propre de l'humanité, j'ai envie de dire, même si c'est un peu pompeux comme formule. Mais c'est quelque chose qui traverse notre humanité de part en part. Hein. La technique en tant que telle, pour juste reprendre une définition, la techné du grec, ça veut dire production. Et donc la technique, c'est simplement un moyen prédéfini utilisé pour atteindre une fin avec un objectif d'efficacité. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est une dimension de notre rapport au monde qui est importante, sur lequel on ne se pose évidemment pas de questions. Là où il y a des questions à se poser, c'est que cette technique, à travers cette définition préalable des problèmes et ce caractère orienté avec un objectif d'efficience, elle est partiale, elle vient véhiculer des façons de voir le monde, des rapports à la réalité qui sont particuliers. Et donc c'est bien évidemment ça que quelqu'un, la philosophie technocritique, analyse. C'est comment un outil peut en fait charrier des rapports sociaux, réifier des rapports de domination, des rapports de pouvoir. Hein, par exemple, tout bêtement, par exemple, une commande numérique centralisée dans une usine, quelle que soit la manière avec laquelle on l'utilise, que ce soit un bureaucrate soviétique ou un capitaliste qui utilise cette commande numérique dans l'usine, ça reproduit l'écartement du cadre de l'ouvrier. Ça éloigne, ça crée une distance entre les directions et les exécutants. Voilà un petit peu un exemple de comment une technique véhicule des rapports sociaux. Et donc la technocritique, évidemment, c'est ça qu'elle analyse. C'est quelle technique, qu'est-ce que la technique reproduit ? Et donc, derrière, c'est une réflexion sur les choix techniques. Hein. Ce n'est pas un refus complet de la technique. Et là où ça recoupe mon travail de médecin, c'est que en médecine, avant même d'avoir rencontré, encore une fois, la pensée d'Ellul, ces questions, on se les pose au quotidien. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand même qu'il y a des dérives dans les technologies médicales, dans des champ de la recherche, des choses qui sont des omissions aussi, des domaines de la médecine qui sont désinvestis, hein, la médecine du travail, la médecine environnementale. On vient en fait, mais ça on pourrait en reparler, mais c'est quelque chose de très fort, cette dérive de la médecine. Hein. Historiquement, la médecine s'est développée sur un modèle galien, hippocratique, qui était fondamentalement basé sur les déterminants environnementaux des maladies. Hein. C'était le propre de la médecine galienne. Hein. De quelle manière l'environnement vient perturber, déterminer la santé humaine. Et donc l'action environnementale, elle était majeure dans la médecine. C'est évident que c'est quelque chose qui s'est perdu. Aujourd'hui, au contraire, les déterminants environnementaux des maladies sont mis de côté pour des raisons qui sont simples. C'est que ça dérange en fait de se rendre compte qu'on vit dans des mondes pollués, qui ont des impacts néfastes sur notre santé. Et historiquement, il y a eu un basculement de cette médecine environnementale qui s'est continuée jusqu'à l'hygiénisme au 19e siècle, où on s'intéressait à la manière avec laquelle l'hygiène et l'environnement influençaient la santé. On est passé au 20e pour des raisons qui sont claires de polarisation de la recherche, notamment par les investissements publics. On est passé à une médecine basée sur en fait la biologie au sens fort du terme, c'est-à-dire une sorte de réductionnisme génétique des maladies qui était lié à une volonté des gouvernements d'avoir des retombées industrielles. Hein. Les biotechnologies, quand on s'intéresse à la santé sous la moulinette de la génétique, contrairement à l'environnement, ça permet d'avoir des applications industrielles. Et donc, les États, les investisseurs ont polarisé la médecine dans une certaine direction, qui ont réintroduit une forme de déterminisme génétique en médecine. Et ça, c'est quelque chose d'évident. Hein. Par exemple, plutôt que d'imaginer mettre en place un environnement social qui permet de soutenir des personnes malades, de travailler sur les questions d'alimentation saine, etc., pour nourrir les gens. Par exemple, des gens qui ont un cancer et qui sont dénutris, on va, par un réductionnisme technique, développer des biomédicaments par biologie de synthèse, des anticorps monoclonaux qui viennent stimuler la fabrication musculaire par les cellules musculaires. Bon, tout ça, c'est des approches qui sont pas inefficaces, qui sont pas fausses, qui sont partiales. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble des développements technoscientifiques résulte de choix en partie. Et là, on pourrait en discuter parce que Ellul, à travers le système technicien, parle d'autre chose. Mais il y a quand même des déterminants politiques et économiques dans la polarisation de la recherche scientifique.
On va en discuter, mais pour revenir directement sur la question du progrès technique, qui était ma question, on peut donc pas vous accuser de promouvoir le modèle Amish et de retourner à la lampe à huile. C'est pas le cas selon la formule de notre président national.
C'est sûr. C'est sûr que c'est un peu la vision dichotomique, un peu bête et méchante, quoi. L'idée que dès lors qu'on critique la technique, en tout cas même pas la technique en tant que telle, évidemment c'est le phénomène technique qu'on critique, hein, au sens d'Ellul, c'est-à-dire la technicisation intégrale, le technicisme, le fait de privilégier les solutions techniques à tout prix au détriment d'autres approches. C'est ça qui est critiqué. Dès lors qu'on le fait, on est accusé évidemment d'être un dinosaure ou de vouloir revenir au Moyen-Âge, ce qui est absurde. Et donc c'est une vision dichotomique entre technophile, adorateur de la technique et technophobe qui serait craintif. Évidemment, c'est une caricature qui est dommage parce qu'elle empêche justement cette réflexion sereine sur la technique et le phénomène technique.
Oui, alors justement, sur cette question-là, vous avez de longs développements sur l'intelligence artificielle qui sont parfaitement réussis. Et vous avez d'ailleurs marqué, vous avez rappelé un point d'accord entre le président Poutine et le président Macron. Les formules sont les mêmes, mais à peu près à la même époque. Alors, elles valent le coup parce que, bon, sur le choix des mots même, pour ce qui est de... Parce qu'ils sont, représentatifs du projet, ils sont toujours d'actualité, c'est des déclarations de 2017, je dirais qu'ils prennent toute leur saveur aujourd'hui. Aussi bien les mots du président Macron, qui d'ailleurs récemment s'inquiétait des dégâts des réseaux sociaux, après en avoir fait la promotion du monde numérique à outrance, mais on va les citer. Pour M. Poutine, la nation qui deviendra leader en matière d'IA, d'intelligence artificielle, sera celle qui dominera le monde. Donc là, je veux être le maître du monde, très bien. Et c'est totalement raccord, si on peut le dire ainsi, avec quelques mois plus tard, donc début 2018, le président Macron voulant faire de la France, je cite, un hub mondial de l'intelligence artificielle. Et puis il consacrait, à l'époque, il avait annoncé 1,5 milliard. Hein. Je pense que d'autres chiffres ont circulé encore plus récemment. Côté Trump, je crois qu'il était question de... Enfin, côté États-Unis ou Trump, à un moment donné, il était question d'un plan de 500 milliards. Je ne suis plus au-delà d'un certain chiffre. Vous me direz, ma question, c'est comment est-ce que vous analysez d'ailleurs cette convergence qui n'a rien d'évidente, peut-être entre le président Poutine et le président Macron?
Alors, c'est quelque chose dont je parle, parce qu'évidemment, aujourd'hui, quand on parle de technique, c'est parler du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est un passage un petit peu obligé. C'est pas le cœur du livre, mais effectivement, sur cette question de l'intelligence artificielle et de la numérisation. C'est en fait un développement technique qui vient rentrer en synergie avec plusieurs choses, à la fois une volonté de contrôle administratif, parce que la numérisation intégrale de nos vies et l'application de l'intelligence artificielle à l'administration, c'est un petit peu le rêve historique des administrateurs, hein, depuis les premiers fichages des populations sous Colbert, on peut reprendre l'histoire de l'identité de l'historien Vincent Denis, par exemple, qui est un des premières fiches de traçage des populations pour se battre contre le vagabondage, etc., le contrôle des populations. Pour les administrateurs, le peuple a toujours été la grande peur, hein, de maîtriser les territoires, les populations, comme disait Michel Foucault aussi, le biopouvoir, le maîtrise des gens et des choses, c'est quelque chose de central. Et ça, le numérique, aujourd'hui, et l'IA, décuple complètement les capacités qu'ont nos administrateurs de régir nos vies et de contrôler nos vies. Donc en ça, que ce soit un État démocratique comme la France ou un État comme M. Poutine, avec des distinctions qui sont discutables, mais les deux, si vous voulez, ont les mêmes intérêts là-dessus. Hein. Tout administrateur...
Vous ne faites pas de différence entre les deux types de régimes.
Évidemment qu'on peut faire des différences quantitatives. Il y a des différences de nature à critiquer.
De nature, vous faites des différences de...
Si, il y a des différences, évidemment. Mais après, c'est sur le rôle de... Enfin, l'illusion démocratique de la démocratie représentative. En tout cas, il y a des limites démocratiques évidentes à notre modèle politique. On le voit d'autant plus aujourd'hui avec beaucoup de choses qui interrogent. On sort du livre, mais évidemment, le manque de pluralisme dans les médias, la dérive présidentialiste du pouvoir au détriment du Parlement à coup de 49-3, etc. C'est des choses, des dérives politiques qui sont préoccupantes. Moi, je renvoie à l'excellent livre de Johan Chapoutot, Les Irresponsables, pour ceux qui l'ont lu, qui pose beaucoup de questions. Hein. On parle, l'analogie avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler dans les années 30, hein, par un gouvernement libéral qui perd toute assise électorale et qui veut pour autant conserver le pouvoir pour maintenir son modèle libéral en place, sanctuariser l'ordre économique. Quand on n'a plus d'électorat, ça aboutit à un régime présidentialiste et des dérives qui peuvent exister aujourd'hui également en France. Bon, c'est complètement un autre sujet. Mais en tout cas, c'est cette volonté d'administration permise par l'IA, c'est un idéal qui transcende les régimes politiques.
Oui, d'ailleurs, là, vous reprenez, je crois, la formule de Saint-Simon. Hein, c'est un peu le projet, justement, là où l'administration des choses viendra suppléer au gouvernement des hommes. Ce qui signifie que l'administration des choses, elle est rigoureuse, elle est efficace, elle est de l'ordre, justement, de la technique, selon les définitions hulliennes, la recherche de l'efficacité. Et puis, le gouvernement des hommes, par définition... Il est imparfait, il est inefficace, et il peut être grotesque, comique, fatigant, épuisant, désespérant, comme on peut le dire. Et donc l'IA serait aussi, selon vous, peut-être l'instrument, puisque le rêve saint-simonien, jusqu'à maintenant, il n'a pas été accompli quand même.
Non, c'est évidemment... quelque chose de complètement délirant, en fait, cette idée d'administration totale et de transparence et de lisibilité complète du social par les administrateurs. Hein, ça, il y a aussi un travail excellent d'un anthropologue qui s'appelle James C. Scott, qui s'appelle « L'œil de l'État », un excellent livre, qui décrit aussi cette volonté de lisibilité du social par les administrateurs. C'est évident qu'il y a un délire, dans les logiques bureaucratiques et de contrôle des populations, il y a toujours une réduction, en fait, déjà de la liberté, des expérimentations sociales, du pluralisme, et c'est quelque chose de très inquiétant. Et puis ensuite, pour reprendre le sujet de l'IA, il y a un sophisme, hein, de passer du constat que l'erreur est humaine à dire que la machine a toujours raison.
Oui, ça c'est intéressant. Vous pourriez justement développer aussi ce point-là. le reprendre. Oui, parce que vous avez... Oui.
Bah, ce que je veux dire, c'est que la machine, elle vient chercher une volonté d'optimisation qui sont pas qui recoupe pas forcément les aspirations des populations. Elle est vraiment là dans une logique purement utilitariste d'optimisation des choses, et ça ne recoupe pas forcément notre rapport au monde, hein, qui ne passe pas, encore une fois, que à travers la moulinette technique. Il y a une forme d'exclusivité technique qui se met en place, comme disait Ellul, où d'un moyen technique accessoire, en politique notamment, l'exclusivité technique fait qu'on en vient à privilégier la technique qui ne devient plus un accessoire. C'est-à-dire que la technique, à travers l'IA et le numérique, finit par nous corsette, comme dit Ellul. Hein.
Oui.
C'est-à-dire que tout devient interfacé par, justement, des systèmes numériques et par des IA qui ne sont là que pour décrire un petit peu les structures sociales de façon conformiste, en essayant d'optimiser. Il y a de l'IA générative, mais avec des créations qui sont étrangères à nos aspirations humaines, dans d'autres rapports au monde que celui de l'efficience. On peut parler d'un rapport esthétique, d'un rapport sensible, d'un rapport heureux, d'autres formes, en fait, que l'efficience à tout prix. Et en ça, la machine peut produire des choses qui nous sont complètement étrangères et pour lesquelles on peut être en désaccord. Et sous cette complexité formelle de l'IA, en fait, on se sent un petit peu étouffé. C'est là un petit peu le risque, c'est qu'on a accordé une sorte de pouvoir injonctif à la technique. C'est-à-dire que l'humain, le propre normalement des sociétés humaines, c'était quand même ce fondement juridico-politique de l'esprit critique et de l'esprit rationnel, capable de se déterminer lui-même, de se créer une conscience, une réflexion, une capacité de jeunesse des structures sociales et de notre environnement politique. Là, ici, on est sur quelque chose où on donne à la machine le pouvoir complet de l'administration. Et en fait, ça sape fondamentalement les fondements juridico-politiques de nos sociétés humaines. C'est là où c'est inquiétant.
Oui, mais alors justement, l'IA est vendue. La promotion, c'est nous dire finalement que ça va vous permettre, ça nous permet plus de liberté, aussi de plus de liberté créatrice, plus de moyens. L'individu peut, avec l'IA, réaliser des quantités, pourquoi pas même des œuvres d'art, de la musique, et toujours aussi plus vite, de façon plus efficace. Maintenant, même pour même Wikipédia, l'encyclopédie collaborative va se retrouver menacée. Elle est censée être au service de vous et moi, de tous les individus.
Ouais, je pense qu'en fait, le problème, c'est que évidemment que l'IA, il y a des choses efficaces qui peuvent être même utiles. Le problème, c'est toujours d'imaginer, d'analyser la technique comme quelque chose de purement instrumental, qu'on pourrait plier à notre volonté. Et encore une fois, comme on le parlait tout à l'heure avec l'exemple de la commande numérique que je prenais dans les usines de façon un petit peu introductive, l'outil, il se plie pas purement et simplement à notre volonté. L'IA, c'est pas que un outil qui peut nous faire du bien, en fait. On le prend dans sa totalité quand ça existe. Et l'IA, elle repose sur des infrastructures numériques qui posent des questions de propriété, qui possèdent les data centers, qui possèdent les bases de données, qui a accès. Pour comprendre les vérités qui sont produites par l'IA, il faut aussi savoir sur quoi se basent les calculs. Mais à ce moment-là, encore une fois, où est-ce que l'IA est entraînée ? Il y a des vraies questions derrière. L'IA, c'est quelque chose de très matériel. Hein. On parle de dématérialisation numérique. Ça repose fondamentalement sur des déterminants matériels. Et donc, il faut le réfléchir avec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « oui, l'IA me rend service là-dessus », sans par exemple aussi prendre en considération les répercussions environnementales des technologies numériques. Parce qu'en fait, là, ce qui nous est vendu, c'est un déploiement tout azimut de l'IA. Alors oui, concrètement, ça peut être utile sur tel ou tel service que ça peut nous rendre. Mais est-ce que vraiment c'est la société dans laquelle on veut vivre? Et est-ce qu'on fait le pari que ses conséquences environnementales catastrophiques à travers la consommation de métaux rares, des infrastructures où on coule du béton pour du data center.
La société de médecine, je ne sais pas si je suis juste dans les termes, mais c'est ce matin, information volée, enfin, attrapée à la radio, va dans le sens d'un accord général des médecins pour le recours d'un accueil positif majoritaire, mais alors selon la formule toujours, mais attire l'attention néanmoins sur les, enfin, notamment les radiologues. Alors là aussi je suis curieux parce que j'ai entendu justement c'est un médecin le docteur Laurent Alexandre. À l'origine, oui, je comprends. À l'origine qui est un grand prêtre du transhumanisme et donc évidemment de l'intelligence artificielle, mais en même temps, il tient le discours selon lequel, finalement, les radiologues peuvent maintenant aller s'inscrire au chômage et en même temps le dire que, grâce à finalement l'intelligence artificielle et à l'ensemble d'ailleurs de la société numérique. Eh bien, on arrivera, c'était d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages, à la mort de la mort. Et il nous promet des vies éternelles et parfaitement heureuses, enfin, quasiment pas éternelles, mais 120, 150 ans, 100, enfin, c'est demain, quoi. Hein. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que il n'y a pas l'impression, quand même, que là encore, c'est combien de divisions, quoi? Il n'y a pas l'impression que le courant, le mainstream en bon français. Et justement, en médecine, va quand même dans ce sens toujours une technicisation. Et puis, écoutez, il suffit tout simplement de faire l'expérience quotidienne en venant ici. J'ai marché 35 minutes, mais je n'ai croisé que des gens, que ce soit... Enfin, j'ai visé quelques percussions, mais c'est pas un discours de... c'est pas le comment dire, papy fait de la résistance, puisque je le conçois, les courants anti-tech, les groupes anti-tech parfois sont animés par des jeunes hommes même d'une vingtaine d'années, de 25 ans, on est bien d'accord là-dessus. Mais combat difficile, c'est-à-dire que là, on croise véritablement des zombies, enfin, et le hop, croiser que des écrans, enfin, tout le long, et même... en marchant, enfin ceux qui sont qui marchent, ceux qui attendent l'arrêt du tram. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est finalement, je dis bien, nous sommes, même vous et moi, et puis je suppose une bonne partie de la salle qui est venue vous écouter, je sais pas quelle image employer aujourd'hui, mais enfin le dernier carré, ou je ne sais pas, même si je viens de dire le contraire en disant que mais ces groupes sont extrêmement minoritaires aussi.
Alors, je pense que il faut quand même faire la distinction entre l'ordre des médecins et l'académie de médecine et les médecins. L'ordre des médecins, l'académie de médecine, ça reste quelque chose de très opaque qui a toujours défendu des positions très réactionnaires, on va dire, qui se permettent d'émettre des avis sur des choses qui ne relèvent pas du tout de leurs compétences. Hein. Par exemple, ils se proposent de faire des propositions des meilleures technologies énergétiques pour la France. J'avais vu un communiqué de l'Académie de médecine qui disait que la meilleure énergie pour la France, c'était le nucléaire. On ne sait pas ce qu'on leur a demandé à l'Académie de médecine, mais ils se permettent d'émettre comme ça des avis régulièrement qui sont complètement déplacés. Et en tout cas, ils reflètent pas évidemment l'avis général des médecins. C'est sûr quand même que dans la communauté médicale, il y a pour beaucoup de mes collègues une appétence pour les technologies, pour le technicisme qui vient aussi de la surspécialisation médicale actuelle. Mais en ça, je pense que la communauté médicale n'est pas non plus homogène sur ces questions. Il y a des spécialités médicales très techniques avec des gestes interventionnels manuels ou pour lesquels aujourd'hui... il y a une appétence aux techniques, mais où l'IA a encore pas forcément beaucoup de place. Après, il y a des spécialités très techniques qui sont entièrement basées sur le numérique. Vous parlez de la radiologie. Là, pour le coup, clairement, c'est une spécialité qui est sur la sellette et qui, en tout cas, à travers l'entraînement d'IA et de lecture automatique de scanners, est en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, on va dire. Après, il y a d'autres domaines de la médecine qui, à mon sens, sont... pour laquelle justement, le délire de remplacement de la médecine par l'IA reste hors de propos. Notamment, encore une fois, parce que la santé se réduit pas à des déterminants purement techniques. Hein. Il y a beaucoup de choses à prendre en charge pour soigner quelqu'un. La dimension sociale du soin, encore une fois, l'environnement des malades, et puis même la compréhension des maladies. Hein. L'IA, pour pouvoir être performante, elle a besoin aussi de se baser sur des catégories de diagnostics connues, sur des protocoles, sur une standardisation des soins, alors qu'il reste en fait des champs médicaux qui relèvent vraiment du savoir empirique. Hein. Moi, je le vois dans ma spécialité qui est la médecine interne. En fait, on soigne des maladies qui sont même pas forcément décrites, où on doit vraiment au lit du malade, avec une importance encore du sens clinique, faire la part des choses, démêler à partir de l'interrogatoire, des plaintes, de l'examen, d'essayer de comprendre ce qui se passe avec des choses qui sont difficiles à normer et à faire rentrer dans des moulinettes statistiques et des prises en charge algorithmiques. Clairement, il reste encore un besoin, évidemment, de soignants qui vont pas être remplacés demain par l'IA. Et c'est là où on voit des types comme Monsieur Alexandre qui défendent des technologies, par exemple des réalités numériques augmentées, des réalités virtuelles dans les EHPAD pour occuper les personnes âgées, des exosquelettes pour faire bouger des patients, enfin des choses qui sont complètement délirantes.
Alors, et pour s'occuper aussi des personnes âgées.
Oui, des robots pour s'occuper de personnes âgées. Enfin, où est-ce qu'on va, en fait? C'est là la question, encore une fois, critique sur la technique. Oui, on peut le faire, mais est-ce qu'on doit le faire? Alors après, Gabor dirait oui, c'est ça. Tout ce qui peut être Gabor, faisable doit être fait.
Attention sur Gabor, hein, parce que ouais. Ça, c'est un. Oui, c'est ce qu'on.
Un lieu commun, mais.
Non, c'est pas ça du tout. Alors ça, c'est pas. Non, mais précisément là, le. Sinon, d'ailleurs, Ellul ne le reprendrait pas à son compte. Ça a été mal interprété. D'ailleurs, ça a été corrigé par indirectement par François Jarige dans La Décroissance. Gabor ne le dit pas pour s'en féliciter. C'est-à-dire que même si Gabor, à l'origine, a une formation tout à fait justement non critique, si on pourrait dire, il a évolué et il le dit, il pose ce qu'on peut appeler une loi, entre guillemets, hein, que tout ce qui peut être fait, sous-entendu tout ce qui peut être techniquement fait, sera fait. Et c'est vrai qu'on le trouve un peu partout, mais il ne le dit pas en s'en félicitant. C'est-à-dire c'est bien pour ça d'ailleurs qu'Ellul le dit. C'est qu'en gros, c'est dans la logique du système technicienne. Et s'il n'y a pas de résistance, et je veux dire, à un moment donné, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, il faut effectivement aller se jeter dans la Garonne. Hein, on peut s'y noyer. Enfin, non, il y a toujours des choses à faire, hein, mais justement, à propos de faire quelque chose, vous avez beaucoup parlé d'environnement dans votre propos, et vous semblez pour le moins sceptique quant à l'utilité des marches pour le climat et des différentes manifestations pacifiques. Est-ce que une question qui a été posée, hein, dans le cadre du jury, est-ce que vous êtes partisan de la violence comme le laisserait entendre, je cite la page, un extrait de la page 341 de votre livre, les démonstrations de force insurrectionnelles, bien que largement insuffisantes, restent des moyens pouvant être utiles afin de s'opposer au pouvoir.
Alors, c'est deux passages du livre qui sont qui parlent pas de la même chose.
Oui.
Mais
c'est là.
Mais là où je veux en venir, c'est oui. Alors déjà ce passage sur les. Donc, je parlais des.
Oui, c'est vrai. Des insurrections. Oui, la partie sur le climat.
Des gens qui ont plus d'espace politique au niveau institutionnel pour canaliser la violence qui est inhérente à la société, il faut pas s'étonner que ça se manifeste quand tous les autres canaux de communication politique et institutionnellement, il n'y a plus la place à une euphémisation de ces violences dans des organisations politiques, il ne faut pas s'étonner que ça se manifeste dans des insurrections et dans, sur un mode de l'émeute, ce qui est toujours insuffisant, puisque l'émeute, déjà, on fait du bruit et il y a un manque, il y a un risque d'instrumentalisation de ces coups de force politiques. Et puis, il y a un criant manque d'organisation derrière. L'émeute, c'est plus un signal d'alarme, un cri d'alerte. Donc moi, je ne vais pas jeter la pierre à ces gens-là. Ce n'est pas du tout une revendication stratégique que de défendre la violence pour la violence. Ce n'est pas du tout ce que je dis dans le livre. D'ailleurs, je parle très peu de ça. Et concernant les marches pour le climat, c'est pareil. Ce n'est pas pour jeter la pierre aux marches sur le climat. C'est pour faire remarquer qu'aujourd'hui, ces marches pour le climat, elles attirent une sympathie un petit peu consensuelle, molle. Et je me pose la question de pourquoi, justement, aujourd'hui, cette question climatique, qui était hautement conflictuelle à son émergence dans les années 80, à cause des luttes avec les industriels fossiles, et puis tous ces conflits avec les fabricants de doutes, du lobbying fossile, qui ont dénié la réalité du réchauffement climatique. À l'époque, cette question du climat, elle était très clivante. Aujourd'hui, en fait, tout le monde se réfère au climat, au réchauffement, pour arriver à ses fins. Il y a une vraie instrumentalisation de la question climatique. Et c'est de ça, c'est ça dont je parle dans le livre. C'est le fait que aujourd'hui, le référentiel carbone est, dans l'écologie est devenu un petit peu le nec plus ultra, parce qu'il sert des intérêts industriels aussi. À travers les green tech, le nucléaire, justement des technologies qu'on nous vend comme décarbonées. Et donc il y a une vraie instrumentalisation de ces questions climatiques, et c'est ce dont je parle dans le livre, en prenant cet exemple. D'ailleurs, je ne parle pas que du climat. C'est vrai qu'après une première partie du livre, où je réfléchis justement avec l'épistémologie de l'histoire des sciences aux déterminants de la fabrication des connaissances, la deuxième partie s'intéresse plus spécifiquement à la technique, et j'ai choisi en troisième partie de m'intéresser à l'écologie scientifique et en partie à la climatologie également, en comme cas d'étude concret, comme exemple à développer par rapport aux thématiques que j'aborde dans les deux premières parties du livre. Parce que c'est vrai que cette question de l'écologie, elle n'est pas étrangère au reste de l'activité scientifique, dans le sens où l'espace social ou l'activité scientifique prend forme, imprime une marque sur le contenu des sciences. Et l'écologie n'est pas étrangère à ce phénomène-là. L'écologie scientifique, d'après-guerre, est, par exemple, fondamentalement reformatée à travers la recherche opérationnelle et la cybernétique, qui était très à la mode, financée par le complexe militaro-industriel américain. On a reformaté notre vision de la nature d'une approche empirique des naturalistes du siècle précédent. On pense à Humboldt, à Darwin. On a, il y a eu un reformatage des pratiques instrumentales de l'écologie à travers l'écologie des systèmes. Cette idée que la nature était un système planétaire, un système Terre, qu'on pouvait contrôler, administrer, où les sciences écologiques, à travers notamment les écosystèmes, ce qu'on appelle l'écologie odoumienne de Gene Odum, qui est un écologue très influencé par la cybernétique, que la nature, grâce à ses savoirs, allait pouvoir être gouvernée. On se servait de la météorologie pour détecter les essais nucléaires de l'ennemi, on se servait de l'océanographie pour la guerre sous-marine. Et donc tout ça émerge dans un contexte de guerre froide où on a un discours sur le monde fini, sur le monde clos, sur le système Terre. Et donc cette écologie financée par l'armée, ce qu'on appelle l'écologie des systèmes, avait vraiment cette volonté de gouvernement. Et puis, il y avait également des impératifs économiques. C'était la nature conçue comme une usine fordiste, avec les notions de productivité naturelle, de ressources naturelles, des mots qui sont issus des sciences de l'ingénieur. Et donc, c'est aussi ce qu'on appelle la géo-ingénierie qui émerge à cette époque. Je parle de ça pour montrer vraiment les rapports, justement, entre les sciences de l'environnement et leur détermination politico-économique. Et la climatologie en fait partie. On pourrait en parler longtemps, et ça pourrait faire l'objet même d'autres d'un autre livre où il y a un cruel besoin, je pense, de comprendre d'où viennent aussi cette science du climat et les institutions qui l'accompagnent, et notamment par exemple le GIEC dont je parle dans le livre, qui en fait historiquement est une institution qui a été mise en avant par une volonté politique, notamment des États-Unis et de la Grande-Bretagne, sous Thatcher et Reagan, hein, qui sont pas connus pour leur philanthropie écologiste, au G7 de 1988-87, l'année d'avant, ont voulu en fait instaurer ce GIEC pour reprendre la main au niveau gouvernemental sur l'expertise climatique. Il existait déjà avant un groupe d'expertise sur le climat qui s'appelait l'AGGG, l'Advisory Group on Greenhouse Gases, le groupe consultatif sur les gaz à effet de serre, qui a été créé en 86, deux ans avant le GIEC, dans une ambiance où les institutions onusiennes avaient une volonté de contrôle de la qualité de l'atmosphère. Il y avait aussi la question des CFC, des chlorofluorocarbures, peu avant, qui faisait beaucoup de débats à partir de 85 avec les questions de la couche d'ozone, qui a abouti au protocole de Montréal en 87. Et donc, il y avait cette idée qui a interdit les CFC. Et donc, à l'époque, cette AGGG, cette Institution internationale du climat, en fait, était portée majoritairement par des scientifiques qui donnaient des recommandations qui pourraient paraître aujourd'hui très radicales, avec des objectifs de réduction des productions de gaz à effet de serre, etc. Et face à ça, les gouvernements américains, notamment, s'est inquiété et a voulu reprendre la main sur l'institution. Et donc, ça aboutit à ce GIEC qui, historiquement, a voulu, encore une fois, contrôler l'expertise climatique, hein, d'où notamment le I de GIEC, hein, qui ne veut pas dire international, mais intergouvernemental. Mais il y a aujourd'hui une énorme littérature en études sociales sur les sciences par des géographes, des sociologues des institutions, des relations internationales, qui nous décortiquent justement l'expertise fournie par ce GIEC, des travaux qui sont passionnants et qui ne sont malheureusement pas... qui ne sont pas discutés dans le public. Je pense, pour mon avis, des raisons de c'est un sujet trop émotionnel. Le débat climatique, il s'est trop polarisé de façon dichotomique entre les climato-sceptiques pro-fossiles et puis les progressistes green tech. Ce qui fait que je pense que beaucoup d'universitaires qui, en sciences sociales, qui travaillent sur justement cette étude critique des sciences dans le champ de l'écologie et de la climatologie, en l'occurrence, ont un petit peu peur d'exprimer alors, leurs propos, par peur d'être traités de climato-sceptiques.
Alors, sur cette question justement passionnante, là, on reste, comme il nous reste deux questions avant de vous applaudir chaleureusement. Deux questions qui sont liées, alors non pas directement au climat, mais encore que indirectement. C'est vrai que vous plaidez, les deux questions sont liées parce que vous plaidez d'un côté pour l'écologie sociale, celle qui, par exemple, incarnée par un Murray Bookchin, hein, qui est pas très bien connu en France, pour employer un euphémisme, alors que plaider pour cette option, c'est-à-dire une société qui serait à la fois juste d'un point de vue social et puis écologique, hein, au point de vue environnemental. Qui est-ce qu'elle est susceptible d'emporter, sachant qu'il y a véritablement un rejet. Moi, comme c'est les questions qui m'intéressent, je trouve qu'on est plus dans l'anti-écologisme, hein, qu'on a pu connaître. On est vraiment, pour le coup, puisque là, une véritable haine de ce que représente dans une partie de la population, qui s'exprime d'ailleurs assez clairement, comme elle exprime aussi son racisme. On peut parler d'écolophobie maintenant. Alors, je disais que la deuxième question est liée, donc vous pourrez faire le choix, ou même répondre à aucune des deux, et vous poser vous-même votre propre question pour conclure. Qu'est-ce que vous reprochez à l'écologie politique partisane, celle qui est incarnée par des Sandrine Rousseau ou des Marine Tondelier, si vous arrivez à vous reconnaître là-dedans? Donc tout ça en 3 minutes.
Ouais, c'est vaste programme. Non, je pense que
elle est pas de vous, mais elle est efficace.
Ouais. Non, l'écologie. Quand je parle d'écologie politique et d'écologie sociale, oui, évidemment, oui. On parle pas du parti Europe Écologie Les Verts. Mmh. Hein, l'écologie sociale de Bookchin et de, c'est vraiment cette réflexion qui allie à la fois une réflexion radical en politique, Bookchin est un libertaire, avec cette critique de l'organisation économique et puis de l'écologie dominante au niveau scientifique. C'est cette vision globale de la politique, de l'économie et de l'écologie qui se regroupe dans cette pensée qui, à mon avis, est stimulante. Après, quelle force politique va suivre et comment on fait adhérer, c'est un vaste débat, mais après, moi, je ne resterai pas fataliste là-dessus. Il y a toujours des contingences en histoire. On est dans une période qui est un peu démoralisante au niveau politique, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se battre et réfléchir sur ces questions. Alors... la politique se fait pas forcément avec des livres, c'est sûr, mais il faut continuer de penser ces questions. Et en tout cas, si on ne réfléchit pas de façon sereine sur tout ça, en posant des limites à justement l'instrumentalisation de ces questions, on aura du mal à se définir un cap politique. Et en tout cas, je pense que ce qui est clair historiquement, je suis en train d'esquiver complètement Marine Tondelier, mais parce que je vois que le coup
non,
je pense qu'en tout cas, ce qu'il faut quand même garder en tête,
vous pouvez,
c'est le fait qu'il n'y a pas de fatalisme technique globalement. L'histoire des développements technoscientifiques et les trajectoires technoscientifiques que nos sociétés empruntent, elle reste ouverte. Il y a eu historiquement des luttes sociales autour justement des techniques qui ne se sont pas faites chez des gens qui ont élu Ellul et qui se sont dit j'ai entièrement intronisé la philosophie de la technique, mais des gens qui étaient connectés à leur réalité de métier. Hein, les luttes autour de la mécanisation, des destructions des savoir-faire. Globalement, les gens adhèrent à une lutte sociale quand ils y sont impliqués émotionnellement et quand ça les touche directement. Donc le milieu du travail reste en ça un endroit où ça se produit, hein, la déqualification qui est produite par la mécanisation et l'artificialisation de nos vies à travers l'interfaçage numérique et la destruction des savoir-faire, je pense que ça peut créer des sources de mobilisation et ce rejet un petit peu des politiques mainstream, on va dire, de façon un peu grossière, elle est très présente. On l'a vu qu'elle s'est exprimée dans des mouvements sociaux encore récemment. On peut penser aux gilets jaunes, etc. Et sur la question de l'écologie, c'est vrai qu'il y a un anti-écologisme, bon, qui est rabattu en fait par une élite politico-médiatique, c'est de CNews à Europe 1, parce que malheureusement, on a des milliardaires qui ont un petit peu la main mise sur nos médias, oui, et qui formatent le débat. Mais j'aimerais juste dire un point, c'est que l'écologie, qui est présentée comme quelque chose de privilégié et pour les bobos, en fait, si on regarde dans le monde entier, les luttes écologistes les plus importantes, elles sont pas le fait des citoyens des villes, hein, c'est l'écologie des pauvres, hein, c'est-à-dire des aborigènes en Australie, en Amérique du Sud, qui sont dépossédés de leurs terres par l'agro-industrie.
Oui, des luttes. Comme vous le dites, vous avez esquivé ma question. Ce qui serait peut-être intéressant,
parce que finalement,
en un mot, de dire qu'est-ce qui fait que dans. Est-ce que très bien, hein, les milliardaires qui contrôlent le globashing sur les chaînes citées, absolument. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que, c'est-à-dire les partis, il leur manque aussi un facteur d'autocritique, que ces partis écologistes, peut-être. Ont une part, je dis bien une part de responsabilité.
Ah, mais complètement. C'est pour ça que j'ai esquivé la question, parce que finalement, je ne pense pas que une force politique véritablement écologiste, au vrai sens du terme, va passer par Europe Écologie Les Verts. Pour moi, ils sont à côté de la plaque depuis un moment. En tout cas, la ligne majoritaire qui était celle de Jadot, elle est hors sol, hein, pour plusieurs raisons, parce que elle prend le parti pris de l'Union européenne avec une UE qui pourtant, elle, est complètement technophile, avec la stratégie de Lisbonne qui veut une économie de la donnée, qui prône le numérique, les smart cities, qui sont complètement dans une sorte de capitalisme vert qui est à côté de la plaque. Je pense qu'à part le nom, ils n'ont pas grand-chose d'écologiste. Alors, j'exagère un peu parce qu'il y a des lignes un peu hétérogènes dans le parti, mais globalement, je m'y intéresse très peu parce que je me reconnais évidemment pas du tout dans ce parti politique qui, à mon sens, est un peu à côté de la plaque.
Cohérent avec... Bon. Écoutez, merci beaucoup. C'était passionnant.
Merci à vous. Merci. Merci à vous.